8h20 à Paris, c'est à la une de l'actualité ce matin, une inflexion inédite et de taille dans le discours des États-Unis sur la guerre entre Israël et le Hamas. Il aura fallu la mort de 7 humanitaires dans des frappes israéliennes à Gaza pour que Joe Biden hausse réellement le ton pour la première fois dans un coup de fil hier à Benjamin Netanyahou. Le président américain exige un cessez-le-feu au plus vite, une augmentation spectaculaire, je cite, de l'aide humanitaire à Gaza. Il amorce surtout la fin du soutien inconditionnel à l'État hébreu. L'aide américaine pourrait, dit Joe Biden, dépendre désormais des mesures tangibles mises en place par Israël pour les civils. Tout cela alors que dimanche marquera les 6 mois des attaques du Hamas en Israël, près de 1200 morts, 6 mois de guerre qui ont depuis fait près de 33 000 morts à Gaza, déplacé 1,5 million de Palestiniens. La quasi-totalité des habitants de l'enclave est aujourd'hui en danger de famine. Notre invité avec nous pour en parler, Jad Hilal Giuliani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-libanais, écrivain, professeur de philo et de littérature dans un lycée près de Paris. On va reparler dans un instant de l'actualité que j'évoquais, les déclarations américaines. Mais je voudrais d'abord évoquer avec vous votre ressenti. Votre histoire est intimement liée à celle de la Palestine. Votre grand-mère palestinienne est une exilée de la Nakba en 1948, l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens de leur terre. Une histoire familiale dont on parlait peu dans votre enfance et dont vous vous êtes rapproché par l'écriture. Comment avez-vous vécu les 6 mois qui viennent de s'écouler ?
Il y a eu différentes étapes, je pense. Très vite, le sentiment que j'ai pu avoir est celui de la colère, parce que je ne comprenais pas cette tendance à dater ces actes et cette histoire au 7 octobre. Quand celle-ci s'inscrivait pour moi dans des décennies de colonisation, des décennies de violence et des décennies de ghettoisation du peuple palestinien. Pour moi, les attaques qui ont eu lieu le 7 octobre étaient le résultat de ça, le résultat déplorable de ça. Mais on ne pouvait pas comprendre, je pense, en restreignant autant le champ. Et je crois que j'ai ressenti ça comme une attaque personnelle. J'ai senti qu'il avait une nécessité à défendre l'identité palestinienne, parce que je suis aussi palestinien.
Ouais.
Et qui a varié dans le temps. D'abord, ça a été une injonction, vraiment un devoir moral pour moi en tant qu'écrivain, alors que ça ne dépend absolument pas de, quand on est auteur, quand on est romancier, disons que c'est pas un impératif.
Ouais.
Voilà. Et donc ça, c'était ma première. Puis ensuite, j'ai reçu une vague de haine sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu un moment où je me suis un peu protégé, je pense.
Ouais.
Voilà. Maintenant, j'en reparle. Peut-être de manière un peu plus saine, j'espère.
Et vous acceptez de le faire sur RFI ce matin. Merci beaucoup. Je le disais hier, les États-Unis ont haussé le ton face à Israël, exigeant un cessez-le-feu au plus vite, une augmentation de l'aide humanitaire. Joe Biden était pointé du doigt ces derniers jours, ces derniers mois même, puisqu'il se montre de plus en plus ferme dans le discours, mais pas forcément dans les actes. Hein. On sait que Washington a approuvé la semaine dernière des nouvelles livraisons d'armes. Que vous inspire l'attitude des États-Unis ?
Je pense que l'attitude des États-Unis est très importante et très intéressante sur le plan du droit international. La Palestine a toujours, pour moi, été un point de bascule. Elle a été du polythéisme au monothéisme. Et elle l'est aujourd'hui pour moi quant à la mort du droit international. C'est pour moi un lieu qui illustre les failles du droit international sur plusieurs plans. Le premier, c'est effectivement celui des États-Unis, mais encore une fois, il faut réinscrire ces problématiques dans des années de condamnation des Nations Unies bafouées par l'État d'Israël et de manquement du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est pour moi un organisme qui pêche sur le plan effectif. C'est un organisme qui n'est pas performatif, puisqu'il y a un veto, comme peut-être plusieurs personnes le savent, et que les intérêts dans la région sont divergents entre les États-Unis et la Russie, ne serait-ce que pour ces deux pays-là.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a d'ailleurs adopté pour la première fois il y a 2 semaines une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat, on ne le voit toujours pas aujourd'hui.
Absolument.
Pour vous, la communauté internationale, et peut-être en particulier le camp occidental, sont impuissants, incapables de résoudre cette crise ?
Je pense que c'est une question d'outils juridiques. Je pense que c'est une question pratique. Les condamnations ont traîné, pour moi. depuis le 7 octobre de la politique de l'État d'Israël qui fonde en fait son principe de justice sur l'idée de vengeance disproportionnée qui plus est, ce qui est impossible pour moi en 2021, outre le fait d'être un État colonial. Et au-delà de ça, effectivement, comme vous le dites, le problème est aussi lié à des outils. C'est-à-dire que rien n'est performatif. Aucune sanction.
Les sanctions ne sont pas applicables.
Oui, absolument. Ce sont des organismes qui effectivement condamnent, mais qui n'ont pas les moyens effectivement d'empêcher que ce soit la raison du plus fort qui triomphe en réalité.
Quelques jours après le 7 octobre, vous accordiez une interview, je crois la première, au journal libanais L'Orient le Jour, et vous disiez ceci, je vous cite: je crains que personne n'entende plus jamais l'autre voix, celle des Palestiniens. La condition des civils à Gaza est depuis au cœur de l'actualité, hein. On a vu aussi émerger un large mouvement de soutien dans plusieurs pays. Que devient cette crainte que vous évoquiez il y a 6 mois?
Moi, personnellement, j'emploie le terme génocide. Et je n'emploie pas le terme israélo-palestinien non plus, parce que je pense qu'il n'y a rien de lien. Ouais. Entre ces deux entités, c'est ce qui me terrorise en tant qu'auteur, je pense. C'est que pour moi, le génocide a lieu sur un plan physique, sur le plan des gens, mais c'est également un génocide intellectuel et culturel qui se produit, comme ça l'a été en Syrie d'ailleurs. Quand un pays est dévasté, c'est la mémoire des gens qui est menacée. Et ça, c'est un devoir dont je parlais tout à l'heure, c'est le devoir artistique. C'est-à-dire que nous, en tant que, je pense, artistes, nous avons un devoir de préservation de l'identité palestinienne, culturelle également.
On en vient justement à votre travail. Vous vous attachez dans chacun de vos romans à raconter des trajectoires de vie, celles de Palestiniens exilés, plus ou moins loin de leur terre, du Liban à Paris. Vous dites qu'il est de la responsabilité des artistes de mettre en avant ces récits de Palestiniens. Pourquoi est-ce important pour vous que les artistes en particulier le fassent?
Eh bien, doublement. La première raison, elle est liée au fait que le discours, disons, pratique, chiffré, est insuffisant, parce que non seulement il ne provoque aucune empathie, mais en plus il normalise. Ça, c'est quelque chose d'assez terrible, c'est-à-dire que les chiffres, on s'y habitue. Et donc, en fait, il y a une urgence, je pense, pour provoquer une empathie. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de mes recherches en doctorat. Pour provoquer de l'empathie, il faut aussi qu'il y ait une adhésion à un récit, c'est-à-dire à une trajectoire de vie, avec une expérience, un vécu unique qui peut être tracé. On ne touche pas autant quand on dit il y a eu 10 000 morts, outre la loi du mort kilométrique, hein, que quand on dit le petit Ahmed était en train d'aller chercher du pain, ouais, et un obus est tombé. Donc en fait, c'est là aussi qu'on peut alerter le cœur des gens en racontant, je pense, des histoires. Voilà. C'est la première raison, effectivement.
Raconter des histoires et restaurer l'empathie, c'est ce que vous faites notamment dans votre dernier livre, Le Caprice de Vivre, aux éditions Elizade, paru l'an dernier. Jadil Al-Juliani, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'RFI ce matin. Je rappelle que vous êtes écrivain franco-libanais palestinien. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci.